Bonjour à tous et à toutes. Alors c'est toujours une grâce et une joie de me trouver devant vous, parce que dans sa grande bonté, Dieu permet que dans ma vie personnelle, que ma vie personnelle enrichisse chaque mois les messages que je viens vous apporter, en faisant vivre l'expérience de sa grâce. Il permet aussi que j'approfondisse la richesse de sa bonté en apprenant que c'est dans ma faiblesse que réside sa force. Dieu me prépare chaque mois en me faisant grandir par la foi et dans sa sagesse au travers des épreuves pour que je puisse vous apporter un message fondé dans son amour. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais souligner et qui est une grande joie pour moi et pour lequel je veux rendre gloire au Seigneur. Alors, nous allons reprendre notre étude sur le livre d'Éphésiens. Nous sommes aujourd'hui au chapitre 3. Nous avançons et nous arrivons à la fin de la première partie de ce livre où Paul nous parle de l'Église dans le monde céleste. Hein, ce livre est découpé en deux parties. Les trois premiers chapitres, c'est l'Église dans le monde céleste, et les chapitres 4, 5 et 6 sur l'Église sur terre, comment doit se comporter l'Église sur terre. Donc nous avons déjà vu dans les chapitres précédents que Paul nous montre que nous pouvons être émerveillés par notre nouvelle identité, émerveillés par sa grâce au chapitre 2, et émerveillés par la communauté de temple que nous formons. Et maintenant, dans ce chapitre 3, Paul veut nous faire comprendre que nous devons être également émerveillés par la plénitude de Dieu. Alors évidemment, il va donner des détails. Il s'agit d'un chapitre entier que l'on va survoler, que l'on va voir, et nous n'avons pas assez de 25 minutes pour tout détailler et pour en faire le tour. Je vous propose cependant, en lisant ce chapitre, d'en faire deux grandes parties. La première partie qui nous montre que nous sommes héritiers, et la deuxième partie que nous sommes enracinés. Alors, chacune de ces parties a un message central particulier que Dieu veut nous apprendre pour nos vies, et qui nous révèle l'infinie grandeur et l'infinie richesse de la bonté de Dieu. Je vous propose de lire le passage. Éphésiens chapitre 3. Moi, Paul, je suis le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs, si du moins vous avez appris comment j'ai fait part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère tel que je l'ai déjà décrit en quelques mots. En les lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il l'a maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Ce mystère, c'est que les non-juifs sont co-héritiers des juifs, qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. J'en suis devenu le serviteur conformément au don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé en raison de l'efficacité de sa puissance. Moi qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs la richesse infinie de Christ et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a été créé par Jésus-Christ. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Voilà pourquoi je plie le genou devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qu'il agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Jusqu'ici la parole de Dieu. Et donc dans ce texte très riche que nous venons de lire, comme je vous le disais, nous pouvons voir deux parties. La première partie, le mystère révélé. Nous sommes héritiers. Au début de ce passage, Paul commence par une prière qu'il interrompt pour donner des détails sur pourquoi il est en train de prier. Il ne reprendra sa prière que plus tard, au verset 14. Alors, il commence sa prière par donner des détails sur sa condition. « Moi, Paul, je suis le prisonnier de Jésus-Christ. » C'est aussi un exemple pour nous, lorsque nous prions, de donner des détails sur notre condition. Rappeler qui nous sommes lorsque nous parlons au Seigneur. Et c'est à la fois une joie pour Paul, mais aussi, en toute humilité, qu'il indique qu'il est le prisonnier de Jésus-Christ. Pour nous, les non-juifs. Car il nous rappelle qu'il a été choisi par le Seigneur lui-même pour être apôtre auprès de toutes les nations non-juives qui ne connaissent pas la loi de l'Éternel. Maintenant, Paul annonce la grâce de Dieu par l'Évangile à toutes les nations. À ce moment-là, il interrompt sa prière pour rappeler qu'il est apôtre des non-juifs, à condition que nous ayons compris comment lui-même a reçu cette grâce et comment il nous la transmet. Il rappelle que ce mystère lui a été révélé à lui et non pas aux hommes des générations passées, non pas parce qu'il n'était pas assez digne pour cela, pas du tout, mais simplement parce que le moment n'était pas encore venu. Il fallait attendre que Dieu lui-même se lève de son trône et envoie son Fils se sacrifier pour acheter toute l'humanité au prix de son sang. Et c'est à ce prix que le secret et le mystère infini de Dieu a été révélé. Alors, quel est ce mystère? On peut se poser la question. Eh bien, il nous le dit sans détour. Paul le dévoile sans détour et indique que les juifs et non-juifs sont cohéritiers. Il fait ainsi écho au chapitre précédent que nous avons vu dans le chapitre 2 notamment, dans le chapitre 1 également, où Paul indique que notre condition a changé et que notre identité est devenue celle de Christ, mais aussi dans le chapitre 2 où il rappelle que les juifs et non-juifs forment qu'un seul peuple, une communauté de temples. À présent, le mystère est révélé. Nous sommes héritiers. Lorsque j'ai préparé ce message, immédiatement, quand j'ai compris que nous étions héritiers, il y a une chose qui m'est venue en tête, une liste de choses dont nous avons hérité. Comme des biens, mais en fait, ce ne sont pas des biens. On a quand même plein de choses dont nous avons hérité lorsque notre identité a changé. Mais il m'est venu aussi une question. Alors déjà, la liste des choses dont nous avons hérité. Nous sommes héritiers avec les Juifs. Nous avons hérité de la promesse d'Abraham, de toutes les promesses de bénédiction qui en découlent, évidemment. Nous sommes également héritiers de Dieu. Nous sommes également héritiers de Christ. Et nous sommes héritiers par grâce. Comme cela nous est rappelé dans le chapitre 2, des versets 8 à 10. Et une question aussi. Nous sommes héritiers de quoi? Alors, on y a un peu répondu. Eh bien, comme je le disais juste avant, nous sommes héritiers de la promesse des bénédictions et nous sommes héritiers de tant de choses que Dieu a mises à notre disposition et en particulier héritiers du royaume céleste. N'oublions pas que nous partageons cet héritage entre nous, mais aussi avec Christ. C'est lui qui domine, c'est lui la tête. C'est Christ qui hérite de tout et nous, à travers lui, nous héritons de la même chose. Donc, nous avons au verset 1, le début d'une prière, puis des versets 2 à 7, le secret révélé à Paul avec les conditions dans lesquelles cela lui a été révélé, lui qui était le méchant juif qui allait tuer les chrétiens, est devenu lui-même ambassadeur de Christ pour proclamer la parole de Dieu et le salut en Jésus-Christ. Vous vous rendez compte de la force et de la puissance de Dieu qui choisit le juif qui persécutait ses enfants pour en faire l'apôtre des non-juifs et aller proclamer la parole de Dieu à travers le monde. Et c'est ce que nous voyons des versets 8 à 13. Paul, se considérant lui-même comme le plus petit de tous les saints, non pas par fausse humilité, pas du tout, mais simplement parce qu'il se rappelle que lui-même a commis des actes abominables qui lui ont été pardonnés par la grâce de Dieu. De persécuteur de chrétiens, il est devenu apôtre de Christ. Et en révélant ce secret, il indique que toutes les dominations dans le ciel et sur la terre ne peuvent plus faire comme si rien ne s'était passé. En effet, même les dominations célestes, il parle ici des anges, bon comme des anges déchus, même ces dominations reconnaissent au travers de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Rappelons-nous que les anges qui sont avec Dieu ne connaissent pas la grâce, car eux, qui n'ont pas péché, ne peuvent pas recevoir la grâce, puisqu'ils n'ont pas péché. Et les anges déchus, qui sont aussi des puissances, reconnaissent la sagesse de Dieu au travers de l'Église et sont impressionnés par l'Église elle-même. Toutes ces dominations sont impressionnées par l'Église car elles révèlent la sagesse de Dieu. Nous sommes l'Église, nous révélons la sagesse de Dieu. Voilà. Mais qui est l'Église, si ce n'est nous, justement? Nous sommes l'Église, c'est donc au travers de nous que la sagesse de Dieu se révélera au monde. Avons-nous toujours un comportement qui reflète la sagesse de Dieu? Demandons-le à Dieu d'avoir cette sagesse qui, sa sagesse qui reflète, d'avoir un comportement qui reflète sa sagesse. C'est une des prières qu'on peut faire en assemblée, évidemment. Versets 12 et 13, Paul le rappelle, c'est par la foi en Jésus-Christ que nous avons la liberté de tout demander et de nous approcher de Dieu avec confiance. Et même si cela se fait dans la douleur, n'ayons pas peur, car c'est notre gloire, et Paul a souffert pour la gloire d'avoir révélé l'Évangile aux non-juifs. Il leur demande ainsi de ne pas s'inquiéter et de ne pas perdre courage face au supplice qu'il endure en prison. Car c'est pour eux qu'il a souffert, et c'est pour qu'ils puissent s'approcher pleinement de Dieu qu'il est en prison. Lui qui a causé la persécution l'a subi également à son tour. Parce que depuis ce jour-là, sur le chemin de Damas, il a eu le secret révélé et une mission confiée. Tout ce passage, qui est déjà très dense, nous montre que Dieu veut une seule chose de nous. C'est plutôt quelque chose que Dieu nous donne. Il nous donne la révélation de son secret. Dieu nous a fait connaître son secret pour que sa sagesse ne soit plus un secret. C'est le message central de ce passage. C'est ce que ce passage veut nous faire comprendre. Dieu nous a fait connaître son secret pour que sa sagesse ne soit plus un secret. Et c'est au travers de nous que cela sera révélé aux autres. Donc, nous sommes héritiers, mais nous sommes aussi enracinés. Nous entrons dans la deuxième partie de ce chapitre où nous sommes... nous sommes enracinés. Enracinés dans quoi, me direz-vous? Évidemment. Eh bien, si vous avez suivi la lecture du texte, eh bien, en fait, Paul reprend ici sa prière qu'il avait commencée au verset 1. Il recommence en disant « Voilà pourquoi je plie le genou devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Dans cette prière, Paul a expliqué trois choses qu'on va détailler. Il explique pourquoi demander, quoi demander et comment demander. Au verset 14, premièrement, pourquoi demander? Paul le rappelle et fait référence à ce que nous avons vu au chapitre 1 et au verset 13 et 14. Nous avons le Saint-Esprit, nous qui sommes ses enfants, ayant été adoptés, le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Et c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons avoir directement accès auprès du Père par le même Esprit, ce que nous avons vu au chapitre 2. Ici, Paul nous dit que toutes les familles de la terre tiennent de Dieu leur nom. Donc, puisque le Seigneur est de notre famille, nous pouvons tout lui demander. Voilà pourquoi il faut demander. C'est pour cela, parce qu'il est notre Père et que nous sommes de sa famille. Deuxième point, quoi demander? C'est peut-être le passage le plus dense de ce chapitre, mais c'est aussi le plus important. Il demande que nous soyons puissamment fortifiés conformément à la richesse de sa gloire. C'est ici l'expression d'une force intérieure qui nous dépasse. Peut-être avez-vous déjà senti cette sensation, ressenti cela lorsque vous priez que vous avez en vous une force incroyable qui vous dépasse et qui vous dit que oui, votre prière est entendue. Peut-être que dans telle ou telle situation difficile ou joyeuse de votre vie, vous sentez en vous une puissance qui vous dit que le Seigneur est avec vous, qui vous rappelle que Christ est toujours là en vous, par le Saint-Esprit. Paul parle de cette puissance-là. Et c'est ce qu'il demande. C'est ce que nous soyons puissamment fortifiés. C'est notre tripes qui parle. Il parle de cela. Voilà. C'est donc l'expression d'une force intérieure qui nous dépasse. Et il continue en parlant de l'amour que nous sommes enracinés dans l'amour, que nous sommes enracinés dans l'amour de Dieu. Et Paul prie pour que nous ayons une expression de son amour infini, de son amour sans limite. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Il ne s'arrête pas là. Il veut que nous connaissions cet amour et que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. Parce que cet amour qui dépasse toute connaissance fera bien plus en nous encore. Cet amour dépasse toute connaissance et toute intelligence. C'est donc bien l'expression d'un amour sans limite que nous ne pouvons pas comprendre. Cet amour qui a poussé Dieu à sacrifier son Fils unique. Cet amour qui a poussé Christ à se sacrifier sur la croix. Et c'est bien ce que nous rappelons à chaque fois que nous prenons la Sainte Cène, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Nous nous rappelons de cet amour infini qui a poussé Christ à se donner par amour pour nous ce jour-là. À chaque fois que nous prenons la Sainte Cène, nous nous rappelons de cela. Et bien sûr, lorsque Paul parle de cet amour qui surpasse toute connaissance, il prie pour que nous ayons une maturité spirituelle et que nous fassions l'expérience de la maturité spirituelle en Christ. Paul conclut sa prière au verset 20 et 21 en rappelant que Dieu peut faire bien plus que nous pensons que ce que nous demandons. Et c'est là le point central et essentiel de sa prière. Il nous indique par là que nous pouvons tout lui demander et que même cela est bien petit par rapport à ce qu'il peut faire et qu'il fera bien au-delà de ce que nous demandons. Il prie pour que toute la gloire lui revienne dans l'Église et en Jésus-Christ. Dans l'Église parce que nous sommes sa communauté temple et au travers de nous que sa sagesse va se révéler. C'est au travers de nous que sa puissance va se révéler. C'est par nos actes qui montrent l'action et la puissance du Seigneur que sa grâce va se révéler aux autres. Voilà pourquoi il dit « À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Ce passage est tellement riche que nous pourrions encore l'étudier pendant des heures, vraiment. J'ai eu du mal moi-même à trancher pour savoir ce que j'allais garder et les points centraux que j'allais vous proposer. Lorsque j'ai étudié ce passage pour vous, en apportant la lecture aujourd'hui, j'ai été touché par le message central proposé par le texte. C'est une interprétation de ma part, mais le texte, à ce moment-là, m'a profondément ému. Ce passage nous dit que Dieu nous invite à demander plus parce que nous avons déjà tout. Dieu nous invite à demander plus parce que nous avons déjà tout. En nous rachetant, et en faisant de nous ses héritiers, c'est comme s'il nous avait donné accès à tous ses comptes bancaires, à toutes ses possessions. Quand il nous invite à demander plus, c'est parce que tout est déjà à notre disposition. Nous pouvons nous servir de tout, mais le faisons-nous vraiment? Certaines fois, ne manquons-nous pas de foi pour demander des choses qui nous dépassent ou qui nous paraissent irréalisables ? Ça nous est déjà tous arrivé, je pense. Dieu nous invite à les demander parce que nous avons déjà tout. Et parce que Dieu est grand, j'en ai fait l'expérience moi-même en préparant ce message. En effet, je connais actuellement des déboires dans mon travail. Mon travail est aujourd'hui source d'angoisse et de tension. Et grâce à la toute-puissance de Dieu, et avec confiance, je lui demande de mettre un voile de paix sur mon cœur. Je n'ai pas hésité un seul instant à faire appel à la famille de Dieu pour prier pour moi. J'ai partagé mes souffrances et mes fardeaux, et mon fardeau a été divisé par le nombre des personnes qui l'ont porté avec moi. Christ a déjà porté mon fardeau. La prière est une arme puissante. Prions les uns pour les autres. Aujourd'hui, je suis en paix avec mon travail, même si ce n'est pas toujours rose, mais au moins, je sais que je suis en sécurité. Toutes ces difficultés au travail m'ont montré que mon regard n'était pas totalement tourné vers Christ. Je sais que de plus en plus, Dieu me transforme pour être à son image et regarder uniquement à Christ au centre de ma vie. Je n'ai plus peur et je n'ai plus honte, car c'est par la puissance de Christ que je suis héritier et enraciné. Et je suis enraciné dans son amour infini. Nous pouvons tout lui demander, car nous avons tout reçu. Sa sagesse n'est plus un secret. Alors, qu'elle soit révélée au travers de nous, son Église, sa communauté temple. Je vous exhorte, chers frères et sœurs, à vous lancer pleinement dans l'amour de Christ. N'attendons pas les difficultés de la vie pour nous tourner vers lui. Même si celles-ci sont le moyen pour nous de grandir et de nous rapprocher de lui, n'attendons pas pour comprendre que nous pouvons tout lui demander et nous approcher de lui avec confiance. Je vous encourage à partager vos secrets les uns aux autres et à partager vos sujets de douleur et de joie afin que tout le monde puisse prier les uns pour les autres. Bien sûr, il y a toujours l'utilité de se protéger et de parler en petits groupes, mais nous sommes une église. Quoi qu'il arrive, partagez vos détresses et vos joies avec des frères et des sœurs. Soyez remplis de son amour au nom de Jésus-Christ et que la paix du Seigneur soit sur vous.